Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes le mercredi 14 avril 2018. Il est 19h passé de 5 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Alors, ce soir, nous allons parler de plein de choses et on ira faire un tour au Royaume-Uni qui expulse 23 diplomates russes.
Et du local ensuite, puisqu'on parlera d'une grève au foyer de la vie médicalisée L'Échappée et un retour en
Condrieu.
De la marche de nuit.
Ensuite, on. Hop, tac, tac. Ah, ensuite, on aura des brèves nouvelles d'Afrine. Et on parlera du Japon qui relance un réacteur nucléaire. Et on finira par un conseil de lecture. Qui parle de.
Un vaste conseil de lecture, puisqu'il s'agit de tous les articles sur la Syrie et les révolutions arabes sur le site de lundi matin.
Ah, c'était pas mal cet effet.
Ouais, le petit effet ralenti, mais tu te lances en DJing, toi.
Ouais,
hein,
c'est pas mal. Comme ça, avec des trucs qui tournent, c'est rigolo.
Alors, on va pas s'attarder beaucoup parce qu'en réalité, c'est difficile de le commenter énormément. Et entre autres, de savoir s'il s'agit d'un truc important et qui va prendre une importance démesurée ou s'il s'agit de guignolerie diplomatique. Mais en tout cas, il nous a paru important de le mentionner. La première ministre britannique, donc Theresa May, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni. Après avoir jugé que la Russie était coupable de l'empoisonnement du fameux ex-espion russe Sergueï Skripal, donc un bonhomme qui avait été espion russe, puis qui était passé de l'autre côté, et donc qui s'est retrouvé avec sa fille empoisonnée en Angleterre. Donc tout laisse à penser que ça serait les Russes qui auraient été les commandés ce truc-là, cet empoisonnement. Et donc Theresa May a annoncé la suspension des contacts bilatéraux avec Moscou à cause de ça. La Russie disposait jusqu'ici de 59 diplomates accrédités au Royaume-Uni, donc Theresa May en dégage 23. Elle a également indiqué qu'il n'y aurait aucun représentant diplomatique ou royal britannique, non, ni diplomatique ni royal, attention, à la Coupe du Monde en Russie. Et ça, attention, oula, c'est hyper grave. Pour les Anglais et pour les Russes, ça veut quand même dire un truc. Alors, l'ambassade russe en Grande-Bretagne a rapidement réagi en dénonçant une réaction britannique hostile, inacceptable et injustifiée. En tout cas, voilà, ça s'embrouille fort. Et toujours est-il que qu'est-ce qui va se passer la suite pour l'instant, c'est que tout à l'heure, dès la fin de ce Canu Info, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir à 20h, donc c'est le Royaume-Uni qui a convoqué une réunion et qui informera le Conseil sur l'empoisonnement de l'ex-espion russe sur son sol. Et en tout cas, pour l'instant, les principaux alliés du Royaume-Uni, alors, bon, quelles que soient par ailleurs les petites embrouilles qu'il peut y avoir, mais en tout cas, dans un jeu diplomatique plus vaste, ça reste des alliés. La France, l'Union Européenne, l'Allemagne, les États-Unis ont apporté leur soutien aux Britanniques dans cette histoire et l'OTAN a sommé la Russie de répondre aux questions posées par le Royaume-Uni et dénoncer l'empoisonnement de cet espion comme une violation flagrante des normes et accords internationaux sur les armes chimiques. Alors il semble que le plus scandaleux dans l'histoire, ce soit le fait qu'il ait été empoisonné avec une arme chimique, ah, et pas le fait qu'il ait été buté. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours est-il que grosse montée de ton entre deux pays un peu balèzes.
Eh ben, les salariés du foyer d'accueil médicalisé la femme donc de l'échappée à Condrieu sont en grève et donc nous allons aller écouter leur dans un reportage leurs revendications, expliquer la situation du foyer et la suite de leur lutte.
Foyer d'accueil médicalisé l'échappée à Condrieu, vendredi 9 mars. Les salariés sont en grève.
Moi, je suis éducateur dans la structure depuis une dizaine d'années et bah, je suis là parce que mes conditions de travail et les conditions de vie des résidents se dégradent à vitesse grand V. Au niveau des directions prises, on est un peu dans le flou, on ne sait pas trop où on va et on continue à travailler avec la population qui est accueillie, qui est une population difficile et en grande souffrance. Et on bricole quoi, pour dire les choses comme je les pense. On fait comme on peut. Et on est loin d'un idéal.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est le trac.
Ouais.
Nous, collectif de salariés du Femmes L'Échappée, alertons la direction générale de la sauvegarde 69 et la direction de l'établissement sur les dysfonctionnements actuels pouvant amener de graves risques de dégradation des conditions de travail. Nous, salariés de terrain, rappelons la promiscuité qui existe entre conditions de travail et qualité de vie pour les résidents du Femmes L'Échappée. Le collectif revendique une nouvelle politique salariale ambitieuse et respectueuse de l'engagement professionnel des salariés.
Le collectif de salariés revendique une nouvelle politique institutionnelle et demande l'arrêt du gel des embauches et du risque de déqualification professionnelle, le remplacement à diplôme équivalent des personnes qui ont quitté l'établissement pour cause de retraite, de démission, etc. Un retour à une dynamique d'accompagnement à la formation pour les contrats professionnels engagés par l'établissement, au soutien des souhaits de promotion sociale des salariés en CDI, à un site qualifiant ambitieux et cohérent. 4 heures de préparation pour l'ensemble des salariés des équipes médico-éducatives afin de répondre aux nécessités des cris professionnels.
Que la permanence de l'accompagnement soit garantie en remplaçant au maximum les professionnels par des remplaçants repérés, fidélisés sur un groupe de vie. Que les CDD engagés sur le long terme bénéficient des outils institutionnels de réflexion, participation aux réunions d'équipe, aux analyses cliniques, aux groupes d'analyse de la pratique. La limitation du recours aux salariés intérimaires aux seules situations d'urgence et que les dépenses actées par la direction soient faites prioritairement vers les résidents, leurs conditions de vie et d'accompagnement. Signé le collectif.
En novembre dernier a été voté donc le PFLSS, c'est le plan de financement de la sécurité sociale qui est voté chaque année. Et donc cette année, il y avait un article, un amendement qui était l'article 50 et qui est devenu le 70, voilà, pour faire vite, qui dénonce l'opposabilité des conventions collectives, c'est-à-dire notre convention collective qui est la convention collective 66, ce qui veut dire en gros que c'est la fin de l'opposabilité des conventions, ça s'oppose aux financeurs et c'est ce qui fait prévaloir nos droits, à savoir nos droits à congés supplémentaires en termes de congés trimestriels ou congés d'ancienneté, nos grilles de salaire aussi. Donc si les financeurs ne suivent plus, à terme, on risque de perdre tous ces acquis, entre guillemets, que les EHPAD ont perdu. Parce que la fin d'opposabilité pour les EHPAD a été dénoncée il y a quelques années, je ne sais plus en quelle année, mais donc ils ont perdu tous ces acquis. Donc voilà où on en est, et on en est aussi dans la marchandisation du social, c'est-à-dire l'ouverture des fonds privés pour financer le social. On appelle ça en fait du dumping social. Et ce qui est introduit, c'est des grilles séraphins, c'est des grilles comme dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont financés par des tarifications à l'acte, ça veut dire chaque acte rapporte, enfin voilà. Et c'est ce qu'ils veulent amener dans le médico-social, ce qui est difficile à mettre en place. À titre expérimental, il y a des établissements qui établissent cette grille séraphin. Nous, on ne sait pas, on ne nous dit rien. Quoi qu'il en soit, l'avenir du médico-social est réellement en danger. Parce que faire venir des fonds privés, ça veut dire rogner surtout, parce que les fonds privés, ça veut dire faire du lucratif, comme les EHPAD. Donc on ne sait pas ce qu'on va devenir et on ne sait pas comment on peut faire du profit avec les résidents que l'on accueille sans rogner sur les conditions de travail et sur les conditions d'accueil des résidents. Voilà, on est très en souci par rapport à ça. Et si nous perdons tous nos droits à congé, vu les professions difficiles que nous avons, je ne sais pas comment on va faire pour pouvoir assurer la continuité de la prise en charge.
Moi, je pense qu'on ne doit pas lâcher l'affaire. Si, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, on y allait, mais ils refusent de nous parler. Est-ce qu'on stoppe la négociation si les familles sont refoulées?
Oui.
On peut dire qu'il y a une majorité, non?
Au moins pour dire qu'il y a la majorité.
Il n'y a pas l'unanimité, mais il y a la majorité.
Je crois que ça demande assistance.
Donc moi, je travaille sur Villefranche-sur-Saône à la sauvegarde. Moi, je travaille plutôt dans l'insertion et je suis en CDD et je suis venu soutenir le mouvement de grève. Voilà, par solidarité. Et donc voilà, avec les compagnons et compagnes de la CNT, on est venu soutenir ici les salariés qui ont depuis une semaine en lutte avec une caisse de grève et voilà, mouvement reconduit. Les gens qui travaillent bien, qui vivent bien dans leur travail, peuvent amener une qualité optimale dans ce qu'ils font. Et à partir de là, ben, on est aussi dans la qualité de vie des gens, des personnes accueillies, quelles qu'elles soient, et indirectement ben, des familles. C'est pour ça que les familles sont venues soutenir, ce qui est remarquable. C'est pas souvent qu'on voit des familles se déplacer et effectivement soutenir la démarche des salariés, puis sur les pas de quelque chose de catégoriel, mais bien sur un secteur beaucoup plus large.
On a un certain nombre de familles qui sont à nos côtés. Il y en a d'autres qui sont pas là, mais qui nous soutiennent. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous d'accord pour dire que les familles, en tous les cas, elles sont toujours associées à notre démarche. Voilà, on lâche pas les familles et pour nous, elles sont importantes et leur parole est forte.
Je suis éducatrice spécialisée. Je suis là pour les postes qui ne sont pas remplacés, la déqualification et puis le fait qu'on a toujours l'impression de devoir faire plus avec moins de moyens.
Je suis éducatrice aussi à l'échappée et je suis là parce qu'on a aussi des soucis de communication qui sont assez importants avec nos cadres. On n'a pas réussi à communiquer suffisamment sur des points qui nous semblaient importants au niveau des équipes et avec la hiérarchie, et que le seul moyen qu'on a trouvé pour arriver à se faire entendre, c'était de faire grève. Il y a une délégation qui est dans le bureau du directeur pour essayer de négocier et puis faire entendre un petit peu nos revendications, donc on va voir ce que ça donne.
Donc il a été décidé qu'on reconduisait le mouvement la semaine prochaine. Donc on continue sur le même modèle, avec toujours une demande d'être reçus, les salariés, les familles, avec les mêmes revendications, et en interpellant le directeur de la sauvegarde, Monsieur Bossu, puisque notre directeur de l'échappée refuse de nous recevoir en son nom et qu'il dit qu'il n'a pas le pouvoir de répondre à nos revendications.
Donc tous les vendredis matin, sur les mêmes modalités qu'aujourd'hui, 10h, 13h, on va s'arrêter de travailler. On va se réunir, on va discuter, nous, avec les familles, et peut-être, j'espère, au bout d'un moment, les résidents. Et puis, on va continuer. Jusqu'au 3 avril, on ira manifester au siège à Lyon, en espérant qu'on sera nombreux.
Le 3 avril, en fait, un nouveau cadre hiérarchique prend en fonction. Donc, on va essayer de mobiliser un peu plus de gens d'autres établissements de la sauvegarde et d'aller accueillir ce monsieur qui prend son poste, donc le 3 avril. On va aller l'accueillir à Lyon.
Comme l'a dit un parent, mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Il faut avoir la foi, ouais, un petit peu, quand même.
Ah, et ben voilà, c'est un film. On avait dit qu'il y avait une musique, mais non.
Ah oui, c'était brut, cette fin de reportage. Voilà, en tout cas, c'est la mobilisation qu'il y a actuellement à la femme de l'échappée. Peut-être on en recausera suite à vendredi, là, et au 2 avril, ce qui se passera. Et sinon, donc à Montreuil, c'est le 28e jour de grève des agents de la Cour nationale du droit d'asile. On en avait déjà parlé dans ce Canu Info, donc je vais aller assez rapidement. Mais comme on en a parlé au début du mouvement, c'est pour dire qu'il continue à exister, et c'est pas rien, 28 jours de grève. C'est donc la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, première juridiction de France en nombre de recours, donc près de 48 000 en 2017, qui est en grève historique donc depuis le 13 février 2018.
La CNDA, précisément, c'est quand vous déposez une demande d'asile à l'OFPRA et que l'OFPRA la refuse, les recours se font devant la Commission nationale du droit d'asile.
C'est ça. Et ces agents s'opposent à la loi Asile-Immigration et réclament de meilleures conditions de travail. Donc, depuis la loi Asile de juillet 2015, les agents n'ont cessé d'alerter la direction de la Cour sur les problèmes rencontrés quotidiennement dans l'exercice de leur mission, sans être entendus. Et leurs conditions de travail, tout comme la situation des demandeurs d'asile, promettent d'être aggravées par le projet de loi présenté en Conseil des ministres par Gérard Collomb, donc le 21 février 2018 dernier. Les agents donc dénoncent le projet de loi Collomb qui prévoit de raccourcir le délai de recours d'un mois à 15 jours devant la CNDA. Déjà un mois c'était ridiculement court, donc là 15 jours c'est peau de chagrin.
En sachant plus que souvent ça concerne des gens qui ont des difficultés de logement et donc qui n'ont pas du tout forcément donné l'adresse de l'endroit où ils habitent réellement, qui ont des difficultés de tous ordres dans la vie et c'est pas forcé qu'ils puissent tous les jours aller relever leur courrier. Autant dire que 15 jours, il y a déjà des travailleurs sociaux qui prévoient qu'il y en a qui n'auront pas le temps d'avoir la décision avant que le délai soit écoulé.
Et de plus, selon le pays d'origine des requérants, les recours ne suspendraient plus systématiquement l'expulsion. Pour l'instant, ça bloque. L'expulsion, là, ça sera plus le cas. Ce projet prévoit également d'augmenter la durée maximale de la rétention administrative. Donc, dans les centres de rétention, vous savez, ces prisons seul délit d'être pas français. Il représente donc un recul des droits des demandeurs d'asile qui sont déjà, pour la plupart d'entre eux, dans une situation précaire et pour les faire valoir. Donc voilà, malgré donc ils se réunissent régulièrement pour renouveler la grève et là puisqu'il y a une absence d'avancée et que aucune négociation qui arrive à se mettre en place, ben ils reconduisent la grève. Et voilà, donc si vous voulez plus d'infos, il y a une pétition en ligne, CNDA, une justice de qualité en droit d'asile. Il y a une caisse de grève et il y a un Twitter, c'est NDA en grève. Voilà. Et samedi 10 mars, là, ce samedi soir, à partir de 21h, on s'est retrouvé des centaines dans les rues à Lyon pour faire une marche de nuit donc contre la misogynie, l'homophobie et la transphobie. Et on était une sacrée bande de transpédéguines et meufs à gueuler dans la rue. Dans les rues, pardon, de la Presqu'île aussi, devant plein de bars et plein de lieux de fête, avec des réactions plus ou moins bienvenues des gens autour.
Est-ce que je peux t'interviewer? C'est pour Radio Canu.
Bon, allez, ça va pas bien, mais tu es Radio Canu alors.
Pourquoi t'es là?
Pourquoi je suis là? Je suis venu marcher. Avec mes copains, mes copines. Tout était un petit peu dans l'intitulé, comme ils sont en train de dire, pour lutter contre cette homophobie, cette violence au quotidien qu'il y a contre les femmes, les LGBT, QI+, XY et tout ce qu'on veut.
On pardonne pas misogynie, transphobie, on n'oublie pas, on pardonne pas.
Bah, la nuit c'est marquant parce qu'on a l'habitude de faire ça en journée de façon très institutionnelle et là on montre que bah non, même la nuit on est présent et présente et ça fait un peu plus le bordel.
C'est un peu notre terrain de jeu parce que on est des créatures festives et nocturnes, mais c'est aussi parce que c'est la nuit qu'on est les plus vulnérables et c'est souvent la nuit c'est la nuit où il y a les agressions, les dernières agressions. Donc voilà, pour dire aussi que la rue et la rue de la nuit nous appartient, qu'on n'est pas seulement barricadé dans les boîtes, mais qu'on peut aussi prendre la rue tranquille. Quoi.
On a le droit d'embrasser qui on veut dans la rue, de s'habiller comme on veut, de faire ce qu'on veut, on ne fait pas mal aux gens. Mais par contre, on s'est fait frapper, on s'est fait insulter, on s'est fait violenter, on en a marre, c'est pour ça qu'on est là.
Il y a des mots, évidemment, il y a de l'agression physique, et après, il y a aussi toute la manière dont la société et le système nous passent à des positions inférieures et hiérarchiquement inférieures. Quoi.
C'est trop de la merde, on est en 2018, il faut que ça change en fait. Voilà, enfin je veux dire que ce soit nos orientations sexuelles, nos identités, ça n'appartient qu'à nous et il n'y a pas raison de manquer de droits et de respect pour ce qu'on est.
Moi je suis une meuf trans et donc c'est des choses que je subis tous les jours et de façon continue quoi. Heureusement moi j'ai jamais eu d'agression physique, après j'ai le droit de subir toutes les remarques au taf, les remarques transphobes, les remarques misogynes.
Moi je me situe comme femme blanche, lesbienne, féministe, anticapitaliste et quoi d'autre, plein de choses précarisées. Voilà, donc consciente que je suis dominante dans certains systèmes et dominée dans d'autres, et en essayant de faire avec tout ça et d'être une alliée sur les systèmes où je suis dominante et d'être en lutte sur les systèmes où je suis dominée.
Ce serait bien si avec les gens que vous connaissez ou que vous connaissez pas, si vous êtes toute seule ou tout seul, vous puissiez former des binômes un peu bienveillants, où vous veillez l'un sur l'autre, l'une sur l'autre pendant la manifestation, ce serait cool. Pour que tout se passe bien pour tout le monde.
Moi, je viens d'Haïti. C'est tous les jours que voilà, je vois la violence. J'ai des amis qui se font agresser. Il y en a un qui a dû se faire expatrier parce qu'il avait pris un coup de marteau, parce qu'il avait été pris avec son amant. Enfin, moi, je veux dire, c'est super important pour moi d'être là. Et j'espère qu'un jour, on fera une marche comme celle-ci, sinon pire encore en Haïti.
Voilà. Ok, donc c'est pas que pour Lyon ce soir.
Non, c'est pas que pour Lyon, c'est partout.
On est place Tétonet. Avec peut-être 200-300 personnes. Et là, il y a plein de potes qui ont s'organisé plutôt pendant la loi travail. Et du coup, c'est dans la continuité de tout ça, et pour montrer qu'il y a vraiment une force rose, comme les Power Rangers, qui est puissante et qui est vénère, c'est trop chouette.
Donc c'est des luttes un peu croisées, tu veux dire.
Les politiques néolibérales et racistes, elles vont toucher en particulier nos communautés. Donc c'est important de montrer que c'est croisé, ouais.
Pour n'importe qui, si vous voyez un problème, n'hésitez pas à reprendre ce slogan, donc vous dites répétitivement alerta, 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 jusqu'à ce que tout le monde entende, en fait, et si vous entendez le slogan, reprenez-le pour que tout le cortège soit au courant qu'il y a un problème et qu'il puisse avoir une réponse collective.
Je me sens pas stigmatisé parce que moi j'ai toujours beaucoup imposé. Je suis quelqu'un qui a pas peur et je m'impose. Après, si jamais je vois de la violence en face de moi, j'ai toujours tendance à réagir avec beaucoup d'humour pour apaiser la tension et faire comprendre à l'autre que c'est plus lui qui est con. Donc moi je me sens pas oppressé.
D'accord, t'as un peu les armes pour voilà, lutter quoi. Voilà. Et du coup tu le fais aussi pour ceux qui n'ont pas forcément les armes.
Exactement, c'est pas parce que moi c'est ok qu'il faut pas le faire pour les autres. Et surtout il faut agir avec beaucoup de solidarité et tous ensemble.
Je milite des uns en reprenant mes proches, ma famille, mes amis, quand ils font des choses qui sont toxiques, des propos transphobes, sexistes, homophobes, parce que c'est déjà les petits combats de tous les jours qui permettent de faire avancer les choses aussi, quoi.
Et souvent, ils en ont pas conscience, c'est ça le pire, non?
Ouais, c'est ça qui me terrifie souvent, c'est que les choses sont dites parce qu'elles sont tellement intériorisées par le système qu'on fait plus gaffe à ce qu'on dit, quoi. Pour moi, vraiment, ouais, c'est pas, on parle pas d'individus qui commettent des actes seulement, mais de tout un système qui a poussé ces choses-là, quoi.
Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment?
Là, je graffe un peu les trucs dans la rue.
Et tu graffes quoi?
J'ai fait Macron, t'encule pas, la sodomie, c'est entre amis.
C'est chaud,
ouais, des trucs comme ça.
Là, actuellement, je vois les gens qui sont en tête, qui crient des slogans super cool et des fumigènes roses de plein de couleurs qui ont été craqués et qui commencent à me mettre de la fumée un peu partout sur les appartements un peu bourgeois de là où on est.
Je trouve ça trop cool et joyeux et vénère. Et trop chouette. Et je suis trop content de voir tous ces gens la nuit comme ça. C'est trop inhabituel et puissant. C'est une image méga puissante, quoi.
Et voilà, et c'était un reportage. Donc merci pour les deux reportages qu'on vient d'entendre sur l'échappée et sur la Pride de nuit aux deux camarades qui les ont réalisés et qui nous les ont envoyés pour vous les faire écouter pour votre plus grand plaisir. Et puis si les questions transpédéguines, LGBTI, féministes vous intéressent, il y a deux émissions sur Radio Canu. Le vendredi après-midi de 17h à 18h, Lilith, Martine et les autres, et on n'est pas des cadeaux.
Alors, eh bien, on va parler d'Afrine, et je vous préviens, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ça fait quelques jours que l'armée turque et ses alliés sont aux portes d'Afrine. Erdogan espérait encercler totalement la ville ce soir. Il a déclaré l'avoir encerclée totalement depuis hier. Un porte-parole kurde d'Afrine, lui, assure qu'il y a encore des sorties possibles pour fuir, mais qui font l'objet de violents bombardements. L'eau est coupée, le barrage à proximité a été pris par l'armée turque, les caméras et les puissances occidentales tournent le dos. Voilà où on en est. On en reparlera la semaine prochaine. Il y a peu de chances que les nouvelles soient bonnes. Et Erdogan prévient que la Turquie, je cite, nettoierait les autres villes du nord de la Syrie, du PYD. Alors ça risque de continuer si personne se bouge. Il est toujours bon de rappeler que la Turquie, sur l'échiquier des grandes puissances mondiales, n'agit pas seulement en électrons libres, mais fait partie de l'OTAN, et qu'on imagine assez bien que les autres pays membres peuvent avoir des leviers pour faire pression sur la Turquie pour qu'elle cesse à minima les bombardements aériens, qu'il doit bien y avoir un foutu texte international qui justifierait qu'on leur pilonne leurs avions, mais non, rien n'est fait. Bon, tout ça sans avoir fait de thèse en géopolitique, hein, vous l'imaginez. Si la France notamment n'avait pas autant peur des migrants, elle n'aurait peut-être pas passé cet accord avec la Turquie pour qu'elle garde sur son sol les exilés syriens dans des conditions minables, en échange de quoi elle a gagné le silence de ses alliés européens.
Le Japon relance un réacteur nucléaire. Les leçons de Fukushima n'ont pas été tirées. Donc 7 ans après, le Japon poursuit sa relance du nucléaire, une industrie qu'il avait totalement stoppée après la catastrophe de Fukushima. Donc hier, mardi 13 mars, c'est la centrale d'Oi sur le littoral au nord de Kyoto qui a été réactivée. L'objectif, donc, c'est diminuer la dépendance énergétique de l'archipel qui compte peu de ressources. Sur les 16 centrales que compte le Japon, Oi est la quatrième à recevoir l'autorisation de reprendre son activité, et ce, en dépit des risques sismiques. Donc au total, c'est 6 réacteurs, dont 2 sont actuellement suspendus pour une maintenance de routine, qui ont été remis en service sur un parc de 42 unités contre 54 avant la catastrophe de mars 2011. Plusieurs autres redémarrages sont prévus dans les semaines à venir, donc ça ne s'arrête pas là. Le gouvernement de Shinzo Abe argumente sur le surcoût de l'achat des hydrocarbures nécessaires au fonctionnement des centrales thermiques. Donc, face au nucléaire, toujours des argumentaires économiques.
Et on revient en Syrie.
Et on revient en Syrie, et en fait un peu plus largement. Et on revient aussi ici parce qu'on va aussi parler de nos médias et de nos reporters. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'ils seraient tous contents d'avoir ce titre-là. Mais et on revient d'abord en 2011, au moment du début des révolutions arabes. Et là, à ce moment-là, un groupe de gens plutôt issus de nos camarades ont décidé d'aller voir un petit peu ce qui se passait du côté des révolutions arabes. Ils sont allés et ont ouvert un blog qui s'appelait En route, sur lequel ils racontaient par où ils passaient, les gens qu'ils rencontraient, des interviews, des voilà, une sorte de boulot de journaliste amateur à sa manière, parce qu'ils n'ont pas fait des études de journalisme, mais en même temps où un paquet de journalistes professionnels reprenaient leurs infos, et d'autant plus que les journalistes professionnels aussi à des moments n'osaient pas trop aller là où eux osaient aller. Voilà. Par ailleurs, nettement plus tard, plutôt d'ailleurs, je sais pas, il y a un an à peu près, s'est ouvert un site qui s'appelle Lundi Matin. Lundi Matin, qui est un site d'information et qui sort une flopée d'articles tous les lundis, d'où son nom de Lundi Matin. Il se trouve très facilement sur internet si jamais vous ne connaissez pas.
À l'adresse lundi.am.
Lundi-am.je-ne-sais-quoi.
Non, je pense que c'est lundi.am.
Mais vous, ah, vous en foutez, vous tapez lundi voilà. Matin dans votre moteur de recherche préféré, comme on dit, et puis vous allez trouver, vous allez pouvoir nous départager. quoi qu'il advienne, les gens de En route, eux, ont tenu leur blog pendant une petite période, et puis après plus. Mais depuis mars 2015, ils refont paraître des articles sur le site Lundi Matin. lundi matin, qui par ailleurs a leurs articles à eux, mais aussi des articles d'autres gens un petit peu sur la Syrie et sur globalement les révolutions arabes. Et alors, en fait, il faut quand même savoir que tous ces articles sont passionnants et qu'il s'agit énormément d'articles fouillés, longs, de, alors parfois d'articles explicatifs, assez souvent aussi d'interviews et d'interviews qui n'hésitent pas à s'étaler sur la longueur. On va y revenir. Pour l'instant, on va lire un peu l'auto-présentation de En Route. Donc, c'est cette bande de gens qui sont allés voir de près les révolutions arabes et qui nous disent que le 17 octobre 2010, Mohamed Bouazizi s'immole par le feu à Sidi Bouzid. On se rappelle de ça, c'était il y a bientôt 8 ans. Ce jeune vendeur à la sauvette vient de se faire dépouiller et humilier publiquement par les policiers. À ce moment-là, spontanément, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, tous prennent la rue. En quelques jours, c'est toute la Tunisie qui se soulève. Ben Ali, ses amis, sa police, son régime, tous doivent partir. C'est le moment du dégage. Le printemps arabe ne fait que commencer. Le 25 janvier suivant, 2011, donc un mois après, des dizaines de milliers de manifestants défilent et défient les forces du régime Moubarak, ça c'est en Égypte, pour une journée de la colère. À son tour, l'Égypte s'embrase. Les places sont occupées. Les commissariats et sièges du parti au pouvoir sont brûlés. Puis la Libye. À New York résonne Occupy Wall Street. À Istanbul, c'est la place Taksim. En Ukraine, il y a Maïdan. Le soulèvement, l'insurrection, la révolution, voilà le débat qui se réouvre brutalement en 2011. Au moment où le soulèvement tunisien se propage jusqu'à l'Égypte, nous décidons de traverser la Méditerranée. Nous sommes alors persuadés que de telles occasions ne se ratent pas, qu'il faut aller sur place et vite. Nous voulions comprendre, vivre, partager et raconter le soulèvement. Nous serons plusieurs équipes à rejoindre la Tunisie, l'Égypte et la Libye. Alors les gens d'En Route à ce moment-là se posent toute une série de questions. Comment s'organise le soulèvement? Comment habiter les vides du pouvoir? Comment se constituent les solidarités matérielles? Comment luttent les femmes? Comment mange-t-on? Comment se bat-on? Comment se suspendent et se maintiennent les rapports sociaux préexistants? Quelles sont les lignes qui partagent la réaction de l'insurrection? Comment se pense, se dit, se vit l'état d'exception? Comment le soulèvement s'éprouve dans la guerre? Bon, c'est à ce moment-là qu'ils font tous ces blogs. Et puis, on va parler des articles après.
Vas-y dégage, Revolution Time. Vas-y dégage, Sammy Dobez, Manko Lawadi, Sukondaran International. Vas-y dégage, vas-y dégage,
خلي تحيا الإنسانية شعبي على الحرية قادم والثورة في دم سخية ارحل ديجاج
فاسي ديجاج
خلي تحيا الإنسانية شعبي على الحرية قادم والثورة في دم سخية
Simuler, toujours prêt à s'immêler. Si pour les sacrifices, dis-leur qu'on va s'immoler. Qu'on boit zizi en vérité, nous on n'a rien à perdre. Car ce qu'on a en vérité, bah c'est une vie de merde. On a beau dire, répéter, t'en as rien à faire. Tu gères tes deals, ta mafia, tu gères tes affaires. C'est pour ton clan, ton parti, ta famille et ton fils. Et après toi, c'est le chaos, je vois très bien la vie. Le peuple n'aura peanuts, le trésor peanuts. Et dans les caisses de l'État, tu laisses peanuts. T'as volé l'or, tout l'argent et t'as vidé les comptes la nuit, même la plus longue. On est le jour, on va régler nos comptes. Dégage. Tu voudrais qu'on se taise. Comment se taire, ça fait si longtemps qu'on nous pèse. L'abcès je crève et dans les rues tout le monde en grève. C'est comme au Caire sur la place, y'aura pas de trêve. Tire sur la foule, quand on peut que tombe. La mort on l'apprivoise, à la longue on s'est creusé des tons. L'armée, les généraux, les blindés ne feront pas céder. Fuck tes pompes, rien n'arrête un peuple décidé. Trop c'est trop, on en a marre, on dit trop c'est trop. La révolution voit le jour parce que trop c'est trop. Sans embâche, bavardage, pas de marchandage. Ferme la page, plus bagage, démarrage. Vas-y dégage.
Vas-y dégage.
Alors voilà, on est donc en train de parler de lundi matin, on est en train de parler de En Route, on est en train de parler de Libye, de Syrie, d'Égypte, et on va commencer par parler des mélenchonistes.
Pardon.
Parce que c'est des révolutionnaires, allez-vous me dire ? Eh ben, non.
Non, c'est parce que t'es fan.
Non. Plutôt parce qu'ils ont créé une sorte de web télé qui s'appelle Le Média. Autant dire qu'ils
ont la comment on dit ça, comment on appelle ça,
qu'ils ont du mal des fois à passer les portes.
Ils ont le sens du totalitarisme.
Ils ont le sens du totalitarisme. Et sur Le Média, alors bon, en vrai, ce que je vais vous raconter, c'est pas une grosse info, ça a un petit peu fait le buzz il y a 3 semaines, plus ou moins. Ils ont invité un bonhomme qui était un spécialiste.
Ah, pour parler, eux aussi ils sont tombés dans les spécialistes.
De la Syrie, ouais. Tout à fait, et en particulier de la Ghouta orientale. Ils ont invité ce bonhomme qui s'appelle Claude Elkal et qui est venu expliquer doctement sur une sorte de plateau télé, là, web télé, qui est venu expliquer que ma foi, Le Média n'allait pas s'abaisser comme les autres télés, les autres journaux, à passer des images de la Ghouta orientale. À montrer des gens qui se prenaient des bombes sur la gueule, à faire du sensationnalisme là-dessus, puisque eux, ils avaient plus une distance par rapport aux autres médias, ils étaient plus malins, et donc eux, ils faisaient attention à ce qu'on les arnaque pas. Et de toute évidence, alors lui nous donnait toute une série d'indices pour lesquels, de toute évidence, les images qu'on avait de la Ghouta orientale étaient biaisées, étaient fausses, étaient manipulées et étaient tournées par venaient de groupes militants. Et donc, alors qu'en fait, c'est une guerre, dans toutes les guerres, il y a deux camps, il y a des morts dans les deux camps, et de toute façon, c'est mal, et la violence, c'est mal, quoi qu'il advienne, et de quel côté qu'on soit, et finissait par faire complètement une sorte de parallèle et d'égalité entre, d'un côté, les forces de Bachar el-Assad, et de l'autre, les gens de la Ghouta orientale, donc, que lui assimilait de toute façon à des groupes djihadistes.
Ah, le cliché.
À pire que le cliché, c'est-à-dire que la Ghouta orientale, ça reste quand même un des endroits où une bonne partie des gens et même encore aujourd'hui des organisations qui se battent sont des gens qui sont des révolutionnaires de la première heure de 2011 et qui sont pas a priori, enfin, ou en tout cas, il y a effectivement des groupes religieux et djihadistes, mais il y a aussi plein de gens qui sont pas du tout religieux et djihadistes et qui sont aussi effectivement militants. Mais alors voilà, disons que ce Claude Elkal doit être le genre de bonhomme à qui certainement, aux alentours du début des années 40, aurait trouvé que dans le conflit interethnique entre les Aryens d'un côté et les Juifs de l'autre, il n'avait pas à prendre parti. Une sorte de bonhomme comme ça. Et donc voilà, c'est ce genre de bonhomme que la télé mélenchoniste invite à s'exprimer et considère comme un spécialiste. Bon, il faut dire par ailleurs que c'est aussi un bonhomme qui, quelques années avant, alors tout ça c'est des infos aussi que je tire de l'article de lundi matin là-dessus, c'est un bonhomme qui, quelques années avant, considérait que l'État islamique était une création d'Israël.
Ah,
on en est quand même là.
D'accord.
Bon, là-dessus, scandale. Le Média ne fait pas du tout « Oups, oui, peut-être on est allé un peu loin », mais plutôt se justifie complètement. Bon, ça fait quand même qu'il y a des gens qui sont barrés en claquant la porte. Mais alors, voilà. Et là-dessus, sur lundi matin, on trouve un article long et fouillé qui reprend argument par argument ce que dit ce Claude Elkal qui nous donne la petite vidéo et qui reprend vraiment phrase par phrase qu'il dit et qui démonte phrase par phrase avec des gens qui sont extrêmement pointus. Et du coup, quoi qu'on en ait à foutre par ailleurs des délires mélenchonistes, lire cet article est hyper intéressant parce que sur la base des déclarations de ce crétin, eh ben, on apprend une tonne de trucs sur la manière dont fonctionnent les groupes, sur la manière dont fonctionnent les images en guerre, sur la manière dont les journalistes peuvent vérifier leurs sources, sur comment ça se passe un boulot de journaliste qui vérifie ses sources, sur des logiciels qui peuvent aider à ça. En tout cas, c'est un article qui est extrêmement riche. Donc, alors voilà, cet article-là, par exemple, je vous le conseille. Il s'appelle, celui-là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, parce que je l'ai même pas c'est le seul dont j'ai pas le titre sous les yeux. Mais en tout cas, on trouve très facilement sur lundi matin, c'est l'avant-dernier.
Un truc genre Le Média.
Hein,
un truc genre blablabla, bla bla, le média.
Le média, misère du journalisme, je sais plus quoi. Mais alors voilà, ça c'est une sorte d'article qui font. Mais on a aussi par exemple un article, alors un article qui est un petit peu vieux, qui date de février 2017 et qui s'appelle Expérience de communes autonomes dans la Syrie en guerre. Et là c'est un article en particulier sur la théorie et la pratique qui a réellement été mise en pratique. D'un gars qui s'appelait Omar Aziz, qui était un militant syrien qui avait une soixantaine d'années, je ne sais plus, une soixantaine d'années, bien tassé en 2011, mais qui a été très rapidement arrêté par le régime et qui est jamais sorti de prison, qui est mort en prison. Et donc lui, c'était un gars qui est un théoricien politique qui avait théorisé tout un système autogestionnaire, mais pour le coup quand même vraiment pas tant basé sur des théories européennes, mais qui avait vraiment fait ça de son côté arabe, quoi. Et ce gars, beaucoup plus qu'on peut croire si on écoute vraiment les infos un peu au jour le jour, ce gars a eu énormément d'influence sur le début de la révolution syrienne. Et du coup, il y a vraiment eu des tas d'endroits, et en particulier dans la Ghouta orientale, où les gens se sont inspirés de la manière dont lui voyait le monde pour s'organiser en comités locaux autogérés, en gros. Bon, c'est aussi ces gens de En Route nous font aussi un article sur comprendre la situation libyenne. Alors voilà, un article un peu hop, d'où on part, où on arrive, etc. Mais la plupart de leurs articles sont quand même pas comme ça, et c'est plutôt soit sur un point particulier, soit sur un énervement particulier. Je pense que je préfère encore des articles qui sont des interviews et alors c'est ça, c'est des interviews longues où les gens racontent leur révolution. On a par exemple cet article qui s'appelle La réalité n'est pas un principe. Entretien avec une jeune révolutionnaire syrienne, être femme alaouite et damascène au début du soulèvement. Et là, on n'a qu'à en dire un tout petit extrait pour montrer le type de questions, le type de réponses.
Alors, par exemple, comment avez-vous fait pour organiser cette manifestation, pour faire en sorte que des gens viennent ? Et la réponse est évidemment, on n'a pas parlé de l'idée de la manifestation à n'importe qui, c'était très dangereux, ne serait-ce que de l'évoquer, tout le monde se méfiait de tout le monde, et on savait que le régime avait peur qu'un mouvement ne commence en Syrie aussi. Donc on en parlait en tout petit cercle d'amis très proches, 4 ou 5, pas plus. Et chacune de ces personnes avait elle aussi des amis de très haute confiance à inviter à la manif, etc. On n'en parlait pas au téléphone ou sur les réseaux sociaux parce qu'on voulait que personne ne puisse savoir d'où venait l'idée. Certaines de mes amies et moi, on s'est coupé les cheveux pour pas que les Chabiyas puissent nous attraper.
Les Chabiyas, c'était des sortes de milices de Bachar el-Assad.
Puissent nous attraper par là si on était poursuivis. On avait fait tourner entre les différents groupes une heure et un lieu de rendez-vous. Le jour de la manifestation, on attendait tout le long de la rue, sur les côtés, aux terrasses des cafés. Et à l'heure dite, on s'est mis dans la rue. On a sorti des pancartes sur lesquelles était écrit « Vive la Syrie, nous aimons le peuple syrien, du lait pour les enfants de Dera ». Rien contre le régime, rien qu'on puisse nous reprocher.
Alors voilà, ça c'est un exemple. On a aussi une longue interview qui est aussi hyper intéressante. J'avais 17 ans quand tout a commencé, 5 ans de révolution syrienne. Celui qui ne participe pas n'a pas d'honneur. Et donc c'est cette fois-ci c'est un gars qui raconte, alors cette interview-là est un peu plus ancienne, elle date de mars 2015, qui raconte aussi la révolution syrienne. Alors lui je ne me rappelle plus dans quelle ville, mais... Et qui raconte à partir du début des tout premiers trucs qui sont passés en bas de chez lui, de comment lui a commencé à y participer, et au fur et à mesure comment est-ce que ça se passe, les manifestations, comment il y a la répression des manifestations, comment est-ce que petit à petit la question des armes se pose, comment est-ce que les armes arrivent, comment est-ce qu'au bout des armes il y a des bons hommes qui au départ ont l'air de militants révolutionnaires, en tout cas tout ce que voient les gens c'est qu'ils se battent aussi contre le régime. En fait, il s'agit de djihadistes. Comment est-ce que, à des moments, la confiance se fait ? Comment elle ne se fait pas ? Comment ils se retrouvent opposés ? C'est assez passionnant de suivre ces trucs-là. Dans le même esprit, on a une interview beaucoup plus récente, puisque celle-là, ils l'ont publiée le 12 mars. Donc, comment ça, le 12 mars ? Ça veut dire il y a 2 jours.
Il y a 2 jours.
Oui, c'est ça.
Mais est-ce qu'on était lundi il y a 2 jours ?
Tout à fait. Qui s'appelle « Les révolutionnaires n'ont pas eu d'autre choix que de s'armer ». Récit d'Alep, entretien avec elle qui est une exilée, alors elle c'est la lettre, enfin, c'est une initiale, exilée kurde syrienne. Et alors elle nous raconte, son interview sert énormément à expliquer la complexité de la situation. Et alors ce que moi j'ai hyper bien aimé, c'est que d'un côté on voit que tout est hyper complexe. On voit que c'est un bordel d'alliances, d'engueulades, à nouveau alliances entre. Alors il y a d'un côté les gens qui sont révolutionnaires. Elle se définit comme révolutionnaire. C'est ça qui lui importe le plus. C'est qu'au début elle est révolutionnaire. Elle est kurde. Mais ce qui l'intéresse, c'est la révolution en Syrie. C'est de dégager le régime de Bachar el-Assad et d'instaurer autre chose à la place. Comment est-ce que à côté de ça, il y a alors il y a les forces du régime bien sûr qui sont en face, mais à côté il y a aussi une partie des révolutionnaires qui vont se retrouver petit à petit, comme je racontais juste avant, du côté des djihadistes aussi, parce que c'est eux qui ont des armes, les djihadistes. Les djihadistes, ouais, ils ont des armes bien sûr parce qu'ils ont des soutiens du côté de l'Arabie Saoudite et de pays arabes qui ont de la thune. Comment est-ce qu'il y a aussi les Kurdes qui arrivent là-dedans? Et alors, du coup, elle dit bien qu'il s'agit de ce qu'elle raconte, elle, c'est-à-dire de ce qu'elle a vu dans la ville d'Alep, que ce qu'elle dit sur les organisations, c'est pas forcément vrai à d'autres endroits. Elle le dit à plusieurs endroits de l'interview. Hein.
Ce qui a l'air d'être une particularité dans ce conflit en Syrie, c'est que c'est vrai que les gens qui disent les choses sont comme ça et tel groupe est comme ça. A priori, ils mentent parce que ça a l'air d'être très enfin, ça a l'air d'être pas possible et que d'une région à l'autre, d'un endroit à l'autre, l'armée syrienne, ça peut vouloir dire tout un truc et son.
C'est ça, c'est pas forcément complexe. Un mensonge conscient, mais en tout cas, ils disent des généralités sur la base de ce qu'ils ont sous les yeux, et ces généralités sont souvent effectivement fausses parce que ce qu'ils ont sous les yeux, c'est une situation particulière. Mais elle en est hyper consciente. Mais donc elle, en tant que kurde, elle voit aussi arriver, parce que Alep, c'est une ville où il y avait une grosse minorité, enfin ça restait une minorité, mais quand même un bon paquet de kurdes, et donc elle voit arriver aussi le PYD, qui est le parti kurde dont les YPG sont l'émanation armée. Et donc, comment est-ce que ce PYD, elle, ça la saoule aussi, parce que ils ont des revendications qu'elle considère comme ethnistes. Lisons un petit extrait de son interview.
Alors, la question de en route. Mais le PYD était présent à Cheikh Maksoud avant la révolution, ou il est arrivé après?
Alors, Cheikh Maksoud, c'est le quartier kurde de Alep.
Donc, sa réponse. Après. Sous le régime, il ne pouvait pas y avoir de parti armé kurde en Syrie. Ça aurait été la guerre. Le PYD est arrivé après. Ils ont été sacrément violents avec nous, qui étions kurdes, et contre le régime. Ils disaient « c'est pas notre problème, c'est un problème entre arabes ». Ils étaient contre le régime, mais pas du côté de la révolution. C'est ce qu'ils ont toujours dit. C'est pourquoi nous qui étions kurdes dans la révolution, on était opposés à eux. Nous, on faisait ces manifs et on ne faisait jamais ce qu'ils voulaient nous faire faire. Comme de crier des slogans en kurde comme « Liberté pour Öcalan ». Il est en Turquie et nous, on faisait la révolution en Syrie. Puis ils ont dit « On va protéger nos quartiers à nous les kurdes, Cheikh Maksoud et Azrafia, des autres parties de la ville ». Et le régime les a laissés faire, sans doute parce qu'ils étaient occupés à bien d'autres choses et qu'il s'est dit « cela, je m'en occuperai plus tard ». Pour le régime, l'essentiel était que l'armée syrienne libre ne prenne pas ces zones-là, parce que c'est des quartiers immenses et qui sont proches des quartiers pro-gouvernementaux comme Bacha. Et donc, le PYD a créé comme un verrou entre certaines zones du régime et celles de l'armée syrienne libre. Quand on pouvait encore passer par là, on pouvait arriver en une heure d'un côté à l'autre de la ville. Mais après que le PYD ait fermé le chemin, il fallait 10 heures pour passer d'un côté à l'autre.
Voilà, et alors là, bah, par exemple, elle parle aussi de l'armée syrienne libre, et elle explique ce truc de... Au départ, ils étaient juste des gens qui organisaient des manifs, et puis à un moment, il y a un truc qui était une organisation, et qui était là, d'une manière, et qui était l'armée syrienne libre. Et comment est-ce qu'au départ, elle a des amis à elle, donc plutôt, on pourrait dire, d'extrême gauche et laïque. comment est-ce que ces gens, est-ce qu'il y en a plein qui sont allés du côté de l'armée syrienne libre? Elle faisait partie des quelques-uns qui étaient plutôt méfiants, méfiantes. Et comment est-ce qu'à un moment, l'armée syrienne libre et Jabhat al-Nosra, qui est un groupe salafiste, ont fini par, ont d'abord coexisté, voire se sont un peu affrontés, et puis ont fini par s'allier, et, par, et finalement l'armée syrienne libre est devenue, en tout cas à Alep, est devenue Jabhat al-Nosra. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui sont hyper hyper intéressantes. Mais en tout cas là, elle vient de dire pourquoi est-ce que le PYD la saoulait. Mais après, ça l'empêche pas de voir aussi le racisme de ses camarades arabes contre les Kurdes.
Donc la question de En Route. Au-delà des divergences politiques, tu sentais des préjugés anti-kurdes parmi les révolutionnaires? Sa réponse: oui, c'est très profond. Et nous, on disait toujours, on avait des problèmes entre nous avant la révolution. On ne peut pas en rejeter la faute ni sur la révolution, ni sur le régime. C'est entre toi et moi. Ah, tu es kurde, tu peux pas travailler avec moi. T'es kurde, t'es tout juste bon à nettoyer les chaussures. Tu peux pas être aussi civilisé que moi. C'est leur façon de penser, et ils refusent de le reconnaître. Mais tu peux le sentir et le voir. Mais celui qui ressent ça a honte de l'admettre. Ils disent: vous les Kurdes, vous les Kurdes. Moi je suis du côté de la révolution, alors je leur dis: pourquoi vous m'accusez moi de ce que fait le PYD? Je ne suis pas dans ce parti, je ne suis pas responsable de ce qu'ils font. Je ne m'oppose pas totalement à eux, mais je suis contre leur idéologie et contre plein d'autres choses qu'ils font, parce que ça ressemble tellement à ce que fait le régime. La façon de traiter les gens, comme le fait d'enrôler les jeunes de force au service militaire. C'est comme ça que fait le régime.
Alors voilà, enfin, en tout cas moi je conseille vraiment cette interview qui est mais tellement passionnante. Et alors par exemple un autre bout où du coup il n'est plus du tout question de savoir kurde, pas kurde ou je sais pas quoi, un bout où elle parle d'auto-organisation et d'auto-organisation par un peu sa bande qui sont des jeunes militants plutôt étudiants.
Pourquoi c'était l'est d'Alep qui était aux mains des rebelles? Réponse: parce que c'était la zone la plus pauvre, qui souffrait le plus du régime. Il n'y avait rien là-bas. Même le rue était en mauvais état. Alors que moi, je vivais dans un quartier riche. Presque toutes les institutions, comme la mairie, étaient de notre côté, et tous les lieux importants de l'État aussi. C'est pour cela qu'à l'Est, ils étaient plus enclins à soutenir la révolution. Et quand la révolution a commencé et que des gens ont quitté leur maison parce que ça devenait dangereux, ils venaient à l'ouest de la ville, où il n'y avait plus de logements de libre. Le gouvernement ne s'est jamais occupé d'eux. Il n'en a jamais parlé. Alors on a formé des groupes de volontaires civils. Nous avons vidé toutes les écoles. C'était durant l'été. Nous avons sorti tout le mobilier et accroché des couvertures pour faire des séparations et les « déplacer », entre guillemets, s'y sont installés. Il y avait beaucoup d'écoles et d'autres types de lieux. On y travaillait et personne ne nous posait de questions. On ne parlait pas trop non plus. On avait peur. Une question de En Route. Il n'y avait aucun cadre officiel à ça? Non. On l'a juste fait avec les jeunes qui avaient participé à la révolution et qui étaient restés à l'ouest. On s'organisait avec des groupes Facebook. En Route: vous ne subissiez pas de pression? Le gouvernement vous laissait faire? Ça l'arrangeait? Je ne sais pas. Après un temps, pas mal d'entre nous ont été arrêtés et les autres se sont enfuis. Et le gouvernement les a remplacés par des gens acquis à sa cause pour continuer ce qu'on avait commencé et prendre l'argent des réfugiés.
Bah, je vais encore parler d'un petit article qui est un article, alors pour le coup, qui date de lundi dernier. Et cette fois-ci, il ne s'agit plus d'une interview, il s'agit d'une sorte d'analyse, mais d'une analyse qui est vraiment fondée sur une énorme colère sur la Ghouta orientale, qui est en train, elle aussi, de se faire laminer en même temps qu'Afrine. Enfin, en même temps, mais alors pas du tout par les mêmes gens, hein, qu'on comprenne bien, c'est que Afrine, c'est Erdogan. C'est la Turquie qui attaque les Kurdes, des Kurdes qui sont en Syrie et qui par ailleurs eux ne sont pas opposés, c'est le moins qu'on puisse dire, à Bachar el-Assad, mais qui voudraient un peu faire leur sauce dans leur endroit. La Ghouta orientale, c'est vraiment juste à côté de Damas, ça touche Damas, c'est la cambrousse juste à l'est de Damas. Et c'est une zone rebelle depuis 2011. C'est une zone qui avait réussi à virer les forces de Bachar el-Assad, mais là qui est en train, où les gens sont en train de se faire laminer pour le coup par l'armée loyaliste et par Uppsala. Ok. et par l'armée par l'armée loyaliste, pardon, avec le soutien des Russes. Et donc cet article s'appelle « Indifférence, trahison et défaite, point de suspension, puis vint le crachat ». C'est vraiment ça le ton de l'article. Mais ceci dit, même si c'est ça le ton de l'article, c'est une analyse très intéressante sur ce qui fait que les forces rebelles ont perdu en Syrie, ont perdu sont en train de finir de perdre dans la Ghouta orientale, avec énormément le rôle ambigu de l'Occident. Parce que l'Occident, alors l'Occident a démoncé les Américains, a démoncé les Français, mais en tout cas, bon, globalement l'Occident, a eu plein de manières d'intervenir et de ne pas intervenir, de soutenir des gens sous condition, de, à des moments, filer des armes à des rebelles, à condition qu'ils combattent d'abord les djihadistes, voire à condition qu'ils ne s'attaquent pas du tout aux troupes de Bachar el-Assad, quand bien même c'était des pays qui par ailleurs étaient opposés à Bachar el-Assad, mais qui avaient leur propre agenda, qui était un agenda purement antiterroriste. Comment est-ce que, enfin, et comment aussi est-ce que les États occidentaux ont toujours poussé les révolutionnaires syriens à accepter des trêves et à les respecter, voire vraiment mis fort la pression pour que les trêves soient respectées par les révolutionnaires, alors que pendant ce temps, les Russes poussaient Bachar el-Assad à accepter des trêves et à ne pas les respecter, ce qui a permis depuis le début depuis un certain nombre d'années de cette guerre en Syrie, ce qui a permis à Bachar el-Assad à plein de moments de pouvoir concentrer ses forces. C'est-à-dire, il y avait la trêve, du coup lui ne se faisait plus attaquer, il concentrait son armée quelque part et il attaquait un endroit particulier de la résistance. Parce que pendant ce temps, de toute façon, il y avait la paix ailleurs. Du coup, il niquait la résistance à un endroit. Et donc, les unes après les autres, les poches de résistance ont été éliminées comme ça. Et donc, pour l'instant, c'est une des toutes dernières qui reste. C'est la Ghouta orientale qui est en train de se faire démolir. Tout ça, encore une fois, dans le plus bel... dans la plus belle indifférence. Enfin, indifférence, c'est pas exactement le mot, mais en tout cas, dans le plus beau laisser-faire de l'Occident. Puisque, alors, ok, d'accord, on est en retard. Quand même, rappelons cette histoire de Macron qui avait dit que si jamais des armes chimiques étaient utilisées à nouveau par Bachar el-Assad, cette fois-ci, c'était une ligne rouge, il allait tout niquer, il allait attaquer. Quand les armes chimiques ont été utilisées il y a 15 jours, il a dit « Ah, mais attention, il faut que ça soit prouvé ». Les preuves s'accumulant, il a dit « Des preuves d'armes chimiques utilisées de manière létale, puisque ce qu'on avait, c'était des gens qui s'étouffaient mais qui ne mouraient pas devant la caméra ».
Ça fait des années que c'est ça.
Etc.
En tout cas, si vous êtes passionné par ce qu'il vient d'être dit, allez lire tous ces articles sur le site lundi.am.
Lundi.am, du coup.
À la semaine prochaine, on laisse place à Idée Noire. Merci de nous avoir écoutés.
Ciao.